Ballon rond, l'émission foot, animée par Florian. Bonjour à tous, nous sommes à présent sur l'émission Ballon rond du lundi à 20h30. Vous êtes avec moi, avec Florian, et je suis en compagnie de Quentin.
Salut tout le monde.
Au sommaire, nous irons côté Ligue 1, ensuite une petite partie actu et on finira sur une question très intéressante. Le transfert clé
et les effectifs de Ligue 1.
Il s'agit du transfert le plus important de l'année.
Et donc, au niveau effectif et transfert, tu voulais nous parler, Florian, de Lorient et d'un joueur, un jeune joueur, Tosin.
C'est ça, exactement. Je voulais vous parler d'un joueur qui n'est peut-être pas très connu pour certains, mais un joueur international béninois, évoluant au poste de milieu offensif ou ailier au FC Lorient, en provenance du club suisse de Zurich, avec lequel il participe à 27 matchs pour 12 buts et 2 passes décisives la saison dernière.
Avec des statistiques plutôt pas mal, hein.
Ouais, des statistiques, qui ont été en hausse constante après l'année 2020-2021. Suite à ses bonnes performances, il avait attiré l'œil de nombreux clubs comme Stuttgart, le Standard de Liège, mais aussi du Benfica Lisbonne.
Et on peut dire que c'est plutôt une bonne affaire au niveau économique.
Oui, c'est plutôt une bonne affaire puisque le club breton a pris ce joueur pour environ 4 millions d'euros. Et le club suisse aussi avait fait une très bonne affaire puisqu'il l'avait acheté seulement 450 000 euros. Donc on peut voir qu'ils font un achat, enfin une vente 10 fois supérieure à leur achat.
Et c'est un choix payant pour le club suisse justement.
Oui, bien sûr, c'est un choix qui s'annonce payant puisque le club suisse pointe actuellement à la première place de cette Super League. Et l'arrivée de ce joueur peut nous poser quelques questions quand même. Est-ce que son adaptation dans un championnat qui est majeur, contrairement à la Suisse, est-ce que face à ce championnat, il arrivera à performer sous le maillot du FC Lorient?
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des qualités de Tosin?
Oui, bien sûr. Tosin, c'est un joueur offensif qui comprend assez bien le jeu, il sent bien les coups. Il arrive à se mettre très souvent dans les meilleures dispositions pour soit intercepter le ballon, le pressing, mais aussi lire le sens du jeu sur une passe ou aussi pour marquer. Il se déplace plutôt bien. Il a de bonnes caractéristiques sur le plan physique et athlétique. Il est fort dans l'impact, rapide et n'hésite pas à faire les efforts de pressing à haute intensité.
Alors comment ce transfert a été accueilli par les supporters?
J'ai un ami qui supportait Lorient et c'est un joueur avec du potentiel qui n'est pas, selon mon ami la recrue Ster, comme Benjamin Mendy ou Bakayoko, mais qui dispose du profil qu'on attend d'un numéro 9 de Lorient. À l'image des joueurs comme Vincent Aboubakar, Wissa ou encore plus récemment Terem Moffi, c'est un joueur que les supporters aiment plutôt bien de manière générale.
Alors toi, ton avis perso sur cette arrivée de Tosin à Lorient?
Je ne l'ai pas trop vu jouer, mais sur le peu que j'ai vu jouer, je trouvais qu'il apportait pas mal de choses, pas seulement dans l'impact physique comme on pouvait s'y attendre, mais aussi dans le jeu. Mais malgré ça, il doit quand même se montrer plus décisif sur ses passes, puisqu'il est censé apporter plus de passes décisives pour leur jeune attaquant, parce que ce n'est pas le numéro 9, Croupi Junior, ou encore pour Romain Fèvre, l'ancien Lyonnais. Je pense qu'il crée pas assez d'occasions, notamment dans le dribble, puisque selon les stats avancées, il n'effectue que 1,7 dribble dans le match. Malgré ça, un bilan statistique qui n'est pas mauvais, puisqu'il a marqué 2 buts lors de ses 5 dernières titularisations.
Et du coup, comment ça se passe pour Lorient alors en ce début de saison?
Ça se passe pas comme l'aurait souhaité Lorient, j'imagine, parce qu'ils sont qu'à 11 matchs joués, ils ont seulement 9 points sur ces 11 matchs. Donc c'est clairement pas des statistiques qui attendent les Lorientais. Mais
c'est un club qui obtient des bons résultats contre les gros, c'est ça?
Oui, c'est ça, assez contre-intuitivement, Lorient obtient assez de bons résultats contre notamment le top 4 de Ligue 1, puisqu'ils n'ont pas encore perdu contre ce top-là. Mais ça reste une équipe assez bizarrement fragile, notamment avec des défaites 3-0 contre Montpellier et contre Le Havre.
À suivre pour cette équipe de Lorient. Tu voulais maintenant nous parler de l'effectif de Monaco et notamment de Wilfried Tsingo.
Oui. Wilfried Tsingo, un joueur que j'aime beaucoup. Un joueur ivoirien, âgé de 22 ans. Il était déjà connu, il connaît déjà le très haut niveau puisqu'il est déjà international malgré son jeune âge. Un international ivoirien. Son statut international n'est pas volé puisqu'il est arrivé en provenance du Torino à Monaco. Il aura participé déjà à 98 matchs en Serie A. C'est un joueur qui peut évoluer dans plusieurs postes, notamment en défense centrale, en latéral. Et il est doté d'un physique plutôt impressionnant et aussi d'une vitesse plutôt impressionnante. Il mesure 1m90 pour 78 kg. Et je pense qu'avec le système de jeu que Monaco a, il s'installe plutôt bien comme défenseur central. Il vient remplacer numériquement le départ d'Axel Dizazi. Il me semble qu'il est parti à Chelsea, si je dis pas de bêtises. Et Monaco a dû débourser à peu près 15 millions pour s'attacher à ses services.
Et du coup, au niveau, on va dire, qualité, style de jeu,
Je le suivais depuis déjà un petit moment. Et c'est vraiment un talent qui pouvait pas être laissé de côté. Hein. Franchement, c'est un joueur plutôt qui pouvait jouer aussi offensif du côté du Torino. Moi, je l'avais connu plutôt offensif, comme milieu droit, notamment au milieu offensif. C'est un joueur plutôt rapide, puissant, qui n'hésite pas à servir de son pied gauche, malgré qu'il soit droitier. C'est un peu léger, on va dire, dans les duels en 1 contre 1, quand on veut le dribbler. Mais il couvre plutôt bien les lignes de passe longues. Et c'est vraiment un joueur, comme je le répète, hein, avec un gros, gros potentiel. Et je pense que Monaco, ils se sont pas trompés en le recrutant. Ça va dans la ligne de. Enfin, dans le profil que Monaco met en place, hein, avec des jeunes joueurs à haut potentiel qui peuvent grimper en prix.
Ouais, un club qui est quand même beaucoup basé sur l'achat-revente, d'essayer d'acheter des jeunes futurs stars, futurs pépites pour les revendre très cher, quoi.
C'est ça, exactement, ouais.
Et du coup, tu parlais aussi que Monaco a encaissé quand même pas mal de buts.
Ouais, malgré ça, comme je disais que c'était un joueur très, très fort, mais il n'est pas le seul à défendre. Et ils ont quand même, je sais plus, ils sont à combien tième place, mais ils ont quand même une bonne place, mais ils encaissent énormément de buts. Là, 14 buts déjà pris.
Actuellement 3e après 12 matchs joués, 24 points.
24 points, ouais. Heureusement qu'ils marquent beaucoup, mais ils prennent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et je pense que malgré le fait qu'ils prennent beaucoup de buts, ça sera très vite amorti son coup.
Après Lorient et Monaco, tu voulais nous parler d'un dernier club, c'est Metz, avec le franco-algérien Van der Kerkhoff.
C'est ça, exactement, un joueur un peu moins connu, je pense. Moi, j'en avais entendu parler, notamment parce que Marseille s'en est intéressé. C'est un joueur international, franco-algérien de 27 ans, qui n'a pas encore joué, je pense, un match en tant que titulaire chez International, chez l'Algérie. Il occupe le poste de latéral droit et il est doté aussi d'une taille plutôt impressionnante, puisqu'il culmine à 1m90.
Et est-ce que tu peux nous parler de son parcours de joueur avant d'arriver du coup à Metz ?
C'est un parcours plutôt éclair, puisqu'il a commencé à découvrir, on va entre guillemets, le monde pro au Luxembourg, déjà à l'âge de 25 ans, à Dudelange. Il finit par atterrir à Bastia en Ligue 2, avec lequel il reste un an, puisqu'à la suite de ses super statistiques avec le club luxembourgeois, avec le club Corse, pardon, il est impliqué sur 12 buts en 38 matchs dans la saison 2022-2023. Pendant cette période, il est suivi par de nombreux clubs comme Saint-Etienne ou encore Lens et Marseille. Mais c'est bien Metz qui était choisi par l'ancien Bastier. Les Grenins ont dû débourser près de 2,5 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur.
Et il a été qualifié de meilleur latéral droit de Ligue 2, c'est ça ?
Comme je l'ai dit auparavant, vraiment une ascension qui est assez fulgurante. Oui, désigné comme meilleur latéral droit de Ligue 2. Malgré ça, en Ligue 1, il connaît peu de temps de jeu, puisqu'il n'a eu que 36 minutes de jeu depuis son arrivée. Il a participé à 6 matchs avec Metz. Et à noter qu'il a marqué le dernier match avec Metz. Pour l'instant, l'entraîneur messin lui préférait Bologna ou Kouao. Mais je pense qu'il peut quand même trouver sa place, puisqu'il a été titulaire lors des derniers matchs.
Alors, quelles sont ses principales qualités à ce joueur ?
On va se poser d'abord la question, est-ce qu'il peut avoir une place de titulaire au sein de ce groupe messin ? Je pense que oui, très clairement. C'est un joueur qui est très percutant, n'hésitant pas à être très offensif, à dribbler, à se projeter. Mais il a aussi une grande, grande compétence dans tout ce qui est coup de pied arrêté, puisqu'il a marqué quelques buts, il me semble, avec le club comment s'appelle, luxembourgeois et Bastia, sur coup franc. Il est grand, il est rapide, et il pousse. Enfin, et voilà, on a fait un peu le tour de toutes ces qualités-là.
Et puis quelques limites peut-être dans son jeu ?
Ouais, c'est compliqué quand on est grand souvent et qu'on est défenseur. C'est souvent un joueur qui en a un contre un peu à l'instar de. Comment il s'appelait ? À l'instar de. Singo, de pardon. Singo, ouais. Ouais, c'est ça. Dans les phases de 1 contre 1, c'est plus compliqué. Et comme il n'hésite pas à monter, ça peut créer des décalages. Donc, à faire attention malgré ça, mais il fait très peu d'erreurs ballon au pied quand même.
Il a joué, du coup, contre le Havre. Hein.
C'est ça. Contre le Havre, il avait joué. Ils avaient notamment obtenu le match nul. Donc, on peut dire que c'était un match plutôt réussi pendant ces 90 minutes-là, parce qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et alors qu'ils avaient encaissé jusque-là tout le temps un but.
Oui, donc c'était la première clean sheet de la saison.
C'est ça.
Et qu'en pensent les supporters de cette arrivée?
Les supporters sont plutôt contents de son arrivée, je pense qu'ils ont raison, mais il faut quand même lui laisser un certain temps d'adaptation. Qu'on passe de Ligue 2 à Ligue 1, et il faut toujours un temps d'adaptation, mais je pense qu'elle peut être aussi très rapide. Et je pense qu'il montrera après toutes ses qualités sur le terrain.
Très bien, merci Florian pour ce petit tour des effectifs de Ligue 1. Chaque nouvelle émission, il y en aura 3 nouveaux. On va se faire une petite pause musicale avant de passer à la suite de l'émission. Qu'est-ce qu'on écoute, Florian?
On va écouter du Rema, on va écouter Calm Down.
See my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 lo.
Ballon rond, l'émission foot, animée par Florian. Rebonjour Bonjour à tous, nous sommes sur actuellement la partie actu. Nous allons la débuter tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Actu foot. Info et résultat.
Ce qui compte, c'est le résultat.
J'aimerais commencer cette partie actu en parlant déjà des clubs invaincus, puisqu'il n'en reste que deux actuellement dans ce top 5 des meilleurs championnats. Seulement Nice et le Bayern, Leverkusen sont invaincus. On peut se poser la question suivante. Selon toi, Quentin, peuvent-ils être de potentiels vainqueurs de leurs championnats respectifs ?
Alors, le Bayern Leverkusen, pardon, je connais très peu le championnat allemand, donc je ne sais pas trop. Nice, non, je les vois pas durer, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font. Toi, tu suis un petit peu Nice ?
Je suis un petit peu Nice, puisque j'aime beaucoup la Ligue 1, donc Nice, très très solide défensivement, hein, une défense qui ne bouge pas, malgré l'âge d'un des deux, quand même, à noter.
Ouais, Dante, là, qui fait un sacré début de saison, ouais.
Ouais, c'est ça, Todibo et Dante qui sont très solides, des latéraux très solides, ils marquent pas beaucoup, mais ils arrivent à gagner leur match et pas à prendre, surtout à pas prendre beaucoup de buts. Hein.
Bah, souvent on dit que gagner un championnat, ça se gagne avec une défense. Hein, donc pourquoi pas. Une autre des actus malheureuses qu'a fait le foot ces dernières semaines, c'est les incidents lors de la rencontre qui devait avoir lieu entre l'OM et l'OL. Tu peux nous repréciser vite fait ce qui s'est passé, Florian ?
Oui, effectivement, il y avait une rencontre OM-OL qui se déroulait au stade Vélodrome. Et avant l'arrivée des joueurs au stade Vélodrome, le bus des joueurs et des supporters ont été caillassés par des personnes à Marseille. Hein. Je ne saurais dire si c'est des supporters, mais je pense qu'aucun supporter ne devrait faire ça. Ils ont été agressés hors de l'enceinte du Vélodrome quand même, c'est à préciser. On a pu voir aussi des images qui tournaient partout, des images qui étaient terrifiantes, de l'entraîneur notamment de Lyon, Grosso, qui à la suite de ces jeux de pierre avait le visage recouvert de sang. Hein. Est-ce que comment les institutions de foot peuvent endiguer ces problèmes de violence qui règnent en France ?
Ah, c'est une question compliquée. Là, je sais même pas si c'est vraiment au rôle des institutions de foot de le faire, puisque là, on est plus dans de la délinquance sociétale, on va dire. Même si ça a un rapport avec le foot, Marseille pouvait difficilement encadrer, hein, c'est pas leur rôle d'encadrer la sécurité en dehors du stade. Donc, à mon avis, c'est quand même plutôt des décisions judiciaires qui doivent être prises.
Ouais, c'est très triste. On va tourner cette page assez triste en parlant du Real de Madrid et de Florentino Pérez, pardon, avec encore une fois le feuilleton.
Le feuilleton qui n'en termine plus.
Qui n'en finit jamais. Hein. Mbappé au Real de Madrid. Est-ce que selon vous, est-ce que selon toi aussi, Quentin? Mbappé au Real de Madrid, ça serait possible. Et est-ce qu'on peut espérer le voir peut-être gagner un ballon d'or avec ce Real de Madrid si jamais il y va ?
Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est quand même assez marrant parce que cette rumeur, elle est ressortie là il y a une ou deux semaines, à une période où on n'entendait plus du tout parler. Il y avait aucune sortie, aucun discours qui laissait penser que Mbappé au Real, c'était une piste réactivée. Et c'est le Real là qui a relancé un peu les choses. Donc on peut se poser la question si c'est pas quand même une envie un peu de leur part.
Oui, peut-être, ou créer un peu d'instabilité aussi, parce qu'on sait que Paris, en Ligue des Champions, ils ont du mal. Et ça revient toujours au même moment, hein, pendant cette période cruciale pour le PSG, donc un tox, on sait pas.
Et justement, à propos de Paris en Ligue des Champions qui va mal, le reste de l'actu, c'était aussi tous les matchs de la Coupe d'Europe qui avaient lieu courant de semaine dernière, avec notamment AC Milan, Paris SG, 2-1 pour le Milan. T'as pu voir le match, toi, Florian ?
J'ai pas du tout regardé le match, mais un score qui ne satisfait pas du tout les Parisiens, je pense. Hein. Ils étaient premiers, ils se retrouvent combien-tième ? Troisième ?
Ils sont troisième, je crois. Là. En gros, le groupe est hyper serré. Hein. Tout le monde peut encore se qualifier, tout le monde a son destin en main. Quoi.
Tout est possible, et je crois que c'était pas arrivé depuis assez longtemps que le PSG se retrouve à ce stade-là, à la troisième position, il me semble.
Et je crois que deux défaites en phase de poule, c'est jamais arrivé, même sous QSI. Quoi.
Il me semble aussi, ouais.
Et c'est vrai que, ouais, gros match de Milan quand même. Léao, énorme. Giroud, énorme. Mais la défense parisienne, très très attentiste. Et puis Mbappé qui a complètement... raté son match. Un autre club français en Ligue des Champions, c'était Lens, qui malheureusement a perdu à Eindhoven.
Je trouve que c'était un match quand même assez dur, hein, assez compliqué. Je pense que le PSV Eindhoven, dans leur enceinte, ils auront réussi à faire craquer Lens. Il y avait une stat avancé. Il me semble que Lens avait fait un nombre de fautes, peut-être 12.
10 fautes, 8 cartons, je crois.
C'est ça.
Ou un truc comme
Tandis
ça,
ouais. que le PSV Eindhoven avait fait encore plus de fautes et moins de cartons. Donc, ils ont réussi à faire sortir totalement Lens de ce match.
Après, c'est vrai que sur les cartons, on peut questionner un peu l'arbitrage, mais c'est pas l'arbitrage qui a fait cette défaite. C'est une victoire méritée pour PSV avec un excellent De Jong qui a vraiment été sur tous les bons coups. Donc malheureusement, c'était deux défaites en Ligue des Champions pour les clubs français, mais en Europa League, les autres clubs ont fait le boulot. On a par exemple Marseille qui allait gagner 2-0 à Athènes.
Oui, j'ai vu le match. C'était un match quand même, on ne va pas qualifier de facile. Hein. Loin de là, c'est jamais facile pour Marseille en ce moment. Mais ils arrivent à pointer quand même à la première place de leur classement. Hein.
Ouais, c'est pas les seuls. Hein. Il y a trois groupes en tête de leur pool là, en Europa League et Europa Conference League confondus. J'ai trouvé quand même que le rythme du match était assez lent. Hein. C'était pas un match qui m'a forcément ultra enflammé.
Non, de manière générale, Marseille, depuis le début de la saison, c'est assez compliqué de faire mieux que ça. C'est des matchs vraiment très compliqués pour moi qui suis supporter. J'ai vraiment beaucoup de mal à suivre avec attention à ces matchs-là.
Peut-être le truc positif de ce match-là, c'est le fait que Marseille marque quand même sur corner, hein, encore une fois, avec un but de Mbemba, là, Chancel Mbemba. Et marquer sur corner, ça peut quand même sortir de certaines situations un peu compliquées.
Heureusement qu'il y a cette défense de Marseille, hein, puisque les attaquants ont beaucoup de mal, mais heureusement que Mbemba, en grand patron qu'il est, toujours décisif.
Toujours en Europa League, il y a Rennes qui est allé battre à domicile le Pana 3-1, mais en jouant plus d'une heure à 10 contre 11. Donc plutôt une grosse performance. J'ai pas vu le match, moi. Je sais pas si t'as vu.
J'ai pas du tout regardé le match, mais je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, Rennes, ils ont beaucoup de très jeunes joueurs. Je pense que c'est un bon résultat. On peut pas le qualifier de très bon résultat parce qu'ils prennent un rouge, ils gagnent, mais je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux pour les Rennais.
Ouais, tu parlais d'effectifs très jeunes, mais ils ont aussi quand même, notamment Ludovic Blas, qui commence à être un buteur un peu d'expérience. Hein.
Oui, bien sûr, il faut encadrer tout ce jeune groupe quand même, avec des joueurs, s'appuyer sur des joueurs d'expérience comme lui.
Toujours en Europa League, il y a eu Lille qui est allé faire match nul à Bratislava. Je n'ai pas vu non plus le match.
Il me semble qu'à l'aller déjà, c'était très compliqué pour Lens à Bratislava. Je crois qu'ils avaient fait un partout encore. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'était déjà compliqué pour Lille. Et Lille, pareil, un peu à l'image de Nice, je trouve. C'est excellente défense. Ils marquent pas beaucoup de buts. Bon, contre un adversaire qui était quand même moins fort que lui hein, sur le papier, c'est vraiment pas un bon résultat.
Et puis le moment moi que j'ai préféré de cette semaine de foot, c'était jeudi dernier pour l'Europa Conference League, donc la C4, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Avec du coup Toulouse qui accueillait au Stadium Liverpool, actuel 3e de Première Ligue, et grosse surprise. Toulouse l'a remporté 3-2.
C'est des matchs comme ça qu'on a envie de voir, qu'on a envie de participer. Là, c'était le match de la folie. Moi, j'ai pas pu le voir, malheureusement. J'étais sur mon téléphone en train de regarder le score, mais j'ai halluciné en voyant le résultat.
Ouais, moi, j'ai pas vu le début. Et quand j'ai commencé à voir le score avec Toulouse qui menait 1-0, je me suis précipité sur un stream. Et franchement, je ne le regrette pas. Avec le Lens Arsenal, c'est un des, en termes d'ambiance, en tout cas, un des meilleurs matchs que j'ai vu là cette saison. Les Toulousains hyper agressifs, hyper dans l'impact et tout. Et aussi avec une utilisation du ballon vraiment top. Ils ont 30% de possession de balle à la fin du match. Ils marquent 3 buts. Il y en a 2 refusés. Donc ils marquent 5 buts en fait. Vraiment grosse projection vers l'avant. Enfin voilà. Et puis Liverpool qui n'a rien pu faire avec cette fin de match. Ce but du 3-3 marqué à la 95e par Liverpool et refusé finalement avec la VAR et le stadium de Toulouse qui explose. Ouais, c'était vraiment, vraiment magique.
Je trouve que de manière générale, hein, les effectifs de Ligue 1, que ce soit les petits comme les grands, je trouve que de plus en plus, toutes les équipes de Ligue 1 sont concurrentielles et s'améliorent de plus en plus, qualitativement.
Ouais. Ouais. Et dans l'envie, dans l'engagement, on voit vraiment des équipes qui arrivent en Coupe d'Europe, non pas pour jouer les matchs à moitié comme c'était le cas il y a peut-être 4-5 ans. Là maintenant, il y a des vraies envies quoi, de jouer, donc c'est cool.
Ouais, très appréciable.
Et puis l'actu, c'était aussi le Ballon d'Or le 30 octobre, il y a 2 semaines. Ballon d'Or qui a été décerné à
Messi. Hein. Quelle surprise pour changer. Hein. On a l'habitude, on va dire, ce 30 octobre, il y avait la cérémonie du Ballon d'Or. Et je voulais poser cette petite question quand même qui revient assez souvent, je pense. Ce débat, Selon vous, Messi mérite-t-il plus le Ballon d'Or que ses deux autres joueurs comme Haaland ou Mbappé?
C'est une large question, hein. Je pense qu'elle a beaucoup été débattue chez les fans de foot. Moi, j'avoue que je l'aurais plutôt donné à un joueur de City. Alors, on dit Haaland, mais je pense que De Bruyne ou Rodri étaient aussi éventuellement plutôt bien placés pour l'avoir. Après, on sait, hein, une année de Coupe du Monde, c'est souvent vers un vainqueur de la Coupe du Monde que le Ballon d'Or y va, sauf en 2018, malheureusement. Donc, Messi, je suis pas forcément hyper choqué que ce soit lui.
Non.
Je pense que Haaland l'aurait peut-être mérité. Je pense que Mbappé aussi l'aurait mérité, mais bon, hyper en finale de Coupe du Monde, il se plante en Ligue des Champions, donc c'est aussi pas évident de le donner à Mbappé. Toi, ce serait quoi ton avis, Florian?
C'est compliqué. Après, comme tu l'as dit, c'est pas démérité pour Messi, hein. Faut pas non plus se leurrer, mais je pense que, je sais pas si c'est objectif ou pas, mais je pense qu'on aurait aussi bien aimé voir un autre joueur le gagner, parce que son armoire doit être déjà très très bien remplie.
Après, peut-être que ça rentre en jeu, mais comme c'est un Français qui l'a gagné l'année dernière, peut-être qu'il voulait pas enchaîner deux Français de suite.
Je sais pas, Mbappé, je pense qu'il était un peu... Moi, troisième place, Mbappé, c'est pas surprenant, même s'il fait un match monstrueux en finale, hein, quand même, faut le noter. Mon cœur quand même penchait plutôt du côté Haaland, Messi, il y avait plus débat quand même. Haaland, faut le rappeler, meilleur buteur en Europe, qui rafle tout ce qu'il y a à rafler en Europe.
Mais Haaland, voilà, qui n'a pas la chance d'être dans une nation football, donc c'est vrai que déjà tout ce qui est match international, c'est compliqué pour lui. Et puis Haaland, qui a été très très bon sur toute la saison, mais qui est resté muet dans les derniers matchs de la Ligue des Champions. Il marque pas en finale, je crois pas qu'il marque en demi non plus. Donc peut-être que ça peut jouer aussi. Il y a eu des débats, hein, de toute façon, parce que les votes des équipes, enfin des nations, étaient publics. Et donc, par exemple, on voit que la Suisse ne met pas Mbappé dans les 15 premiers. Bon, là, on peut se dire que c'est un peu scandaleux, exemple.
Ça manque beaucoup d'objectivité. Hein. On a vu beaucoup, beaucoup de pays voter pour des joueurs de leur sélection. Hein.
Ouais.
Je ne sais plus, je ne vais pas citer n'importe quelle sélection, mais c'est vrai que ça remet aussi en question une autre question sur une question posée déjà. Ça remet en question la validité de ces votes-là, quoi.
Ouais, moi je pense que en fait ça remet même au-delà en question l'existence d'un trophée individuel comme le Ballon d'Or dans sport qui est collectif. En vrai, l'Argentine ne gagne pas grâce à Messi, il gagne grâce à toute l'équipe. La France va en finale sûrement plus grâce à Griezmann qu'à Mbappé. Donc voilà, le foot étant un sport collectif, est-ce que vraiment c'est légitime de mettre en avant un joueur? On peut aussi se poser la question,
bien sûr. Bon, merci pour cette écoute. Je vous remercie vraiment tous. Et je vous souhaite une excellente soirée à vous. On se retrouve pour le prochain épisode dans 2 semaines.
Salut tout le monde.
Bonne soirée, au revoir. Ballon rond, l'émission foot, animée par Florian.